découvrir et comprendre la doctrine sociale de l'Église avec Mgr Marc Hayé.
Troisième observation sur cette conception structure de péché. En rappelant l'influence que les structures sociales ont nécessairement sur la vie et la conduite des hommes, la doctrine sociale de l'Église reconnaît l'importance décisive des institutions. Ne dit-on pas que les individus passent, mais que les institutions demeurent. Vous voyez, il ne s'agit pas pour autant de nier l'importance des institutions. Ce n'est pas parce que l'homme est libre qu'il se détermine toujours de manière parfaitement libre et individuelle. Il subit nécessairement des influences. D'ailleurs, sa nature est inclinée à certains biens précieux de la vie humaine. L'Église reconnaît en tout cas que la prétendue neutralité des institutions, comme on le dit souvent dans notre concept de laïcité, neutralité religieuse, neutralité morale, neutralité sociale, neutralité politique, est toujours un leurre, voire une imposture. Alors on essaie toujours d'objectiver le plus possible, de prendre des distances par rapport à nos passions, à nos idées, mais on est nous-mêmes, et l'homme est ainsi fait, qu'il ne peut pas être complètement neutre dans ses décisions, même celles qui engagent les autres. D'ailleurs, n'est-ce pas Jean Jaurès qui, au début du XXe siècle, proclamait lui-même, à propos de l'école et de l'enseignement public, qui, soi-disant, aujourd'hui, se veut complètement neutre, mais ce qui est un leurre, une imposture, comme on le voit dans l'expérience. Il disait ceci, « Il n'y a que le néant qui soit neutre. » Et je cite une phrase plus importante qu'il donnait, « La plus perfide manœuvre du parti clérical des ennemis de l'école laïque, écrivait-il dans la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur d'octobre 1908, c'est de la rappeler à ce qu'ils appellent la neutralité et de la condamner par là à n'avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité intellectuelle et morale. En fait, il n'y a que le néant qui soit neutre. C'est un bel aveu de ceux qui ont évidemment préconisé ou promu l'école laïque, gratuite et obligatoire. Tel est bien ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique lorsqu'il souligne que toute institution s'inspire, même implicitement, d'une vision de l'homme et de sa destinée. C'est le numéro 2244. L'école catholique s'inspire d'un projet éducatif de l'homme intégral qui comprend la dimension spirituelle et chrétienne de la vie des hommes et de la vocation de l'homme. Et l'école laïque, on ne peut pas dire qu'elle est neutre. Elle procède aussi d'une vision de l'homme qui, du coup, devient athée et indifférente à toute religion. Oui, qu'on le veuille ou non, toute institution, quelle qu'elle soit, y compris l'État, ses lois et ses règlements, s'inspire nécessairement d'une certaine conception de l'homme et de la société. Si celle-ci n'est pas conforme à la nature de l'homme et la conception chrétienne de la vie sociale et politique, c'est-à-dire à la doctrine sociale de l'Église, elle sera peut-être d'inspiration libérale, socialiste ou maçonnique, mais en tout état de cause, elle ne saurait être neutre. C'est la raison pour laquelle le catéchisme de l'Église catholique insiste sur la nécessité de respecter dans la vie sociale et politique une juste hiérarchie des valeurs. Je cite le numéro 1886 du catéchisme de l'Église catholique. Il faut que soit respectée la juste hiérarchie des valeurs qui subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. Fin de citation. On comprend par conséquent que le pape Pie XII ait pu déclarer dans son radiomessage du 1er janvier 1941, prononcé à l'occasion du 50e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, je cite, « De la forme donnée à la société, conforme ou non aux lois civiles, dépend et découle le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire le fait que les hommes, tous appelés à être vivifiés par la grâce du Christ, respire dans les contingences terrestres du cours de la vie l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales, ou au contraire, le poison morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. » Fin de citation. On n'avait pas peur des mots à cette époque-là. Quatrième et dernière observation, la lutte contre l'influence délétère des péchés sociaux, qui sont, comme nous l'avons rappelé, la résultante d'une accumulation de péchés personnels, passent bien entendu de façon primordiale par la conversion personnelle, c'est-à-dire par la conversion des cœurs. Plus concrètement, elle suppose de plus en plus fréquemment que les chrétiens et les hommes de bonne volonté soient effectivement capables de s'opposer aux prescriptions contraires aux exigences de l'ordre moral. Je cite ici le numéro 2242 du catéchisme de l'Église catholique. Contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Elle nécessite enfin, de la part des laïcs responsables en tant que tels, du bien commun de la société temporelle, l'assainissement, voire le démantèlement des structures de péché. Je cite le numéro 909 du catéchisme de l'Église catholique, que les laïcs unissant leurs forces apportent aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables pour qu'elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice et favorise l'exercice de la vertu au lieu d'y faire obstacle. Fin de citation. C'est ce que nous développerons prochainement dans le cadre des catéchèses à venir, mais j'insiste bien sur ce fait que pour combattre les structures de péché, puisqu'elles sont l'accumulation de péchés personnels, il faut commencer par convertir le cœur. Si l'on veut réformer extérieurement par l'action politique et sociale qui est dite ensuite les lois et les institutions, eh bien, il faut que ce soit fait par des hommes qui soient convertis dans leur cœur. Si on veut promouvoir la justice de manière extérieure, par l'action politique, ben il faut être soi-même juste, qui est une vertu, c'est-à-dire une disposition intérieure de l'intelligence et de la volonté.